Cette balado-diffusion est une production de Delta Media.
Bienvenue à Cinémascope en balado-diffusion, spécial sur un réalisateur, et nous avons nommé
Alfred Hitchcock.
Le maître du suspense.
Oui, le vrai. Ouais, un des grands, en fait.
Oui, oui.
Un des bons, c'est un des meilleurs.
Un pionnier de...
Pionnier, exactement.
Pour certaines
un
techniques.
Innovateur.
Oui.
Alors, ben c'est ça. Pourquoi donc on a décidé de faire ça sur Alfred?
Ben,
alors qu'on a fait Scorsese, déjà.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a fait? Hein?
Ridley Scott.
Oui.
Tim Burton.
Oui, ben oui, bien sûr.
Et, justement, je pense qu'à l'émission de Tim Burton, j'avais dit à un moment donné, il faudrait faire Alfred Hitchcock. Mm. Ça, c'est avant même de voir le film Hitchcock.
Oui.
Mais quand j'ai vu le film Hitchcock, ça a fait... Là, c'est là.
Ben là, c'est sûr. C'est surtout qu'en plus, tu étais dans le mood.
Oui, c'est ça.
Un bout de tête.
Fait que la manière qu'on va faire ça, c'est que dans un premier temps, on va parler de sa biographie. Après ça, on va faire un survol de sa carrière rapide. On va s'attarder à quelques grands succès qu'il a fait.
Il a quand même fait une cinquantaine de films, pareil.
Oui.
Fait qu'on va s'attarder aux gros noms. Là.
C'est ça. Et ça. Après, on va faire une pause, et après, on vous parlera de... Bon, il y avait eu une critique, là, mais...
Oui, oui, il y a une petite rafale.
Mais
oui.
On parlera du film Hitchcock en soi.
Puis je tiens quand même à souligner, m'excuser peut-être que je vais sonner un petit peu enrhumé, puis je vais tousser, parce que je me sors peu à peu d'une grippe virale, là. Mettons que je suis pas dans ma meilleure des formes. Bon, ça va bien.
J'aurais dû amener mon Purell ici. Il est laissé au bureau.
Ouais, là, je taponnerai personne, là.
Alors,
ouais.
Ben, voilà, je te laisse commencer.
Une petite bio rapide.
Oui, est-ce qu'on nomme qu'est-ce qu'on boit?
Oui, ben, en fait, on peut...
C'est vraiment pas de circonstance.
Non, ça fit pas à tout avec le réalisateur.
Ça aurait été plus pour Iron Man, en tout cas.
Exact, c'est vrai, hein? Oh, il te reste plus, on refera un spécial pour Iron Man. Je trouve que c'est vrai qu'il est approprié, pas penser à ça. Hitchcock, de toute façon, c'était pas un buveur. Il était pas...
Non, parce qu'il buvait quelque chose.
Oui, mais pas de la bière.
Ouais.
Non, il était plus sur le fort. Bon. Il était plus porté sur les boissons fortes. Alors, on boit une bière qui s'appelle ECDC, mais c'est une bière qui est faite brassée par un des Français. Une belle grande canette qui s'est pour commémorer le Black Ice ou la tournée Black Ice, je sais pas trop. Là. Mais c'est une bière qui fait en cochon. Là. Mm. Mais elle est belle.
Très belle canette.
C'est Danny une canette, qui a trouvé là. Ça. Oui, oh, une belle canette. Danny qui a trouvé ça. Elle est super belle. En tout cas, parce qu'ici, surtout que moi j'aime beaucoup. Danny aussi, je pense.
Oui.
Ouais, du vrai rock. Mm. Bon vieux rock, tu sais, que tu changes pas. Là.
On anticipe pour Iron Man 3.
Exact.
Voilà. Ceci étant dit...
On se lance tout de suite ou on fait une pause ou...
On se lance tout de suite.
OK. Bon. Alors, on avait décidé de faire une émission sur Hitchcock, premièrement, parce qu'on veut commémorer le 33e anniversaire de sa mort.
Oui.
Qui est survenu le 29 avril 1980. Il est mort à 80 ans d'une insuffisance rénale. À 80 ans, quand même, il a eu une bonne vie, là. Monsieur il est né le 13 août 1899 à Leytonstone, en Angleterre, au Royaume-Uni. Puis, bon, comme j'ai dit, il est mort en 80, à Bel Air, à Los Angeles, aux États-Unis. Donc, il a eu la double citoyenneté. Il l'a eu en 55, si je ne me trompe pas. Oui, en avril 55, il a eu la citoyenneté américaine. Mais il est arrivé à la fin des années 30 aux États-Unis. Ça a pris un certain temps avec Isaac. Alors, que dire? Il est marié depuis un... Il a toujours été avec sa femme... excusez.
Coupé!
Ouais. Ah, excusez. C'est pas drôle. C'est ça qui va arriver. Hein. Sa femme, Neville, voyons comment ça s'appelle.
Alma.
Alma, ouais. Puis il y a eu une femme. Il y a eu un enfant qui s'appelait Patricia.
Patricia, oui.
Alors, gros sa carrière, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur... il a commencé... Il a ses parents... Hey, c'est pas drôle. Je reprends mon souffle. Fou. Alors, une bonne famille catholique. Il y a eu... son père est mort alors qu'il avait 14 ans. Il est mort en 1914, son père.
OK.
Il a quitté le collège à ce moment-là, qui était à Saint-Ignatius, le collège. Il s'est enrôlé. Il s'est embarqué pour London County Council School of Engineering and Navigation. Ça, c'était à Londres. Il a eu son diplôme après ça en publicité, puis il s'est embarqué ensuite à faire de la pub et du graphisme au cinéma anglais. Et de fil en aiguille, bien évidemment, il a commencé à travailler sur des projets, mais c'est pas lui, là. C'est des projets d'autres. Puis à un moment donné, il y en a un qui a été tombé malade. Puis le producteur dit, ben, tu connais le projet, continue, tu sais. Puis le producteur a beaucoup aimé ce que ça a donné à la fin. Puis son premier film anglais, c'était à la fin des années, des années 20. Puis à partir de ce moment-là, ben là, il a commencé à tourner ses propres films, mais pas tout à fait la signature Hitchcock comme on la connaît maintenant, les années 40, 50, 60. Là. Mm-hmm. Mais... sa période des années 30 a été assez prolifique pareil. Alors, la Paramount l'a vu. Ils ont trippé sur lui. Ils ont dit, hey, ça tente pas de venir aux États-Unis, toi?
Ouais.
Hein, genre, tu fites pour être dans notre moule. Là. On cherche du sang en neuf. Oui, pas de trouble. Il s'en vient à Hollywood. Il tourne des films qui commencent à le mettre sur la map. Là, genre 39 steps. Entre autres, qui est un classique, déjà. Puis, vite demain, bon, ça vient plus. C'est le film que je vous parlais, qui est son premier film, là, qui n'est pas vraiment de lui, là, c'est Number 13, en 1922.
Apparemment, un film inachevé.
Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vraiment de lui non plus. Là. Alors, que dire? On peut déjà penser... Ben, c'est sûr que c'est vite... Qu'est-ce que je peux dire sur le gars? Ben, il est ovophobe.
Ouais.
Ça. Si on parle juste du gars, là, homophobe, ça a été son intéressé, il a la phobie des œufs. Il déteste les œufs. il comprend pas comment ça peut exister ou qu'on peut aimer de manger un œuf. Il comprend pas le fait que ce soit rond, qu'il n'y ait pas de trou, qu'il y ait un jaune et du blanc dedans. Ça, il trouve ça inexplicable.
C'est paranormal.
Il s'est marié en 1926. Et puis, depuis ce temps-là, ben, il est marié. Avec la même femme. Ce qui était rare à l'époque, d'ailleurs. C'est ça, en gros, là.
Bon.
On peut déjà...
Fait que si on parle du réalisateur,
ouais.
Sa façon de raconter ses films,
ouais.
ses thématiques, on sait que les thématiques qui reviennent souvent, c'est le voyeurisme.
Oui, c'est vrai.
Le romantique. Et il aime souvent mélanger mort et nourriture dans une même scène.
On parle de mort mourir, tu
vois. Oui. Okay. Exemple dans Psycho, pendant que Norman Bates a préparé un sandwich à Marion, Janet Leigh, ben, il parle d'oiseau parce qu'elle mange comme un oiseau, mais c'est pas vraiment ça parce qu'un oiseau, ça mange beaucoup, pareil, finalement. Mais avec des oiseaux empoyés autour d'eux autres, il parle de sa passion d'employer des oiseaux morts. T'sais. Bon. Dans Rear Window, fenêtre sur cour. James Stewart, qui est obsédé par peut-être qu'il y a eu un meurtre de l'autre côté, dans l'autre fenêtre.
Ouais.
Puis qui en parle avec Grace Kelly, qui, elle, met la table.
Là, quand tu parles de voyeurisme en plus, là, c'est un
classique. Oui, là, c'est, ouais, c'est voyeurisme au maximum. Évidemment, le côté romantique, il y a toujours la belle fille blonde fatale. Mmh. Bon.
D'ailleurs, généralement, toutes les productions, à Hitchcock, il y a toujours le schéma de la femme. Là,
ouais.
La vente, là.
Et souvent, il aime raconter un film plus avec la caméra. Moins de paroles, dans plusieurs scènes, entre autres. Par ses cadrages, par sa manière que la caméra va se déplacer. Et aussi...
Il n'a même pas tourné, lui. Il l'a toujours dit.
Ouais.
De toute façon, tout le monde le sait maintenant. Là. Lui, un film... Tourner un film, c'est ennuyant. C'est storyboard, il disait tout déjà. Il
ouais.
Trippait là-dessus, là.
Puis aussi, ça, surtout une façon de faire champ contre champ, c'est-à-dire le personnage voit quelque chose, il nous le montre, il se passe quelque chose, réaction du personnage, et ainsi de suite. Ben, ça, c'était beaucoup dans Rear Windows. D'ailleurs, quelqu'un a déjà dit dans le making of que Fenêtre sur cour, ça résume c'est quoi un Hitchcock. Tout est dedans. Voyeurisme... comme on a dit, romantique, mélangé avec la mort, caméra qui est...
Le suspense était là, c'est...
C'est ça.
Puis, on voyait déjà sa technique, une excellente technique d'ailleurs, et c'est ça qui était bien avec lui, parce que l'outil, la caméra était un outil qui pouvait... qui scrutait, qui cherchait, il essayait de faire toujours de quoi de nouveau avec la caméra. D'ailleurs, Vertigo, le titre le dit, là.
Ouais.
C'est un des premiers à l'avoir expérimenté. Il n'a pas vraiment réussi son coup, je pense.
Ben oui, c'est juste qu'il faut qu'il le fasse avec des décors en maquette. Parce que l'endroit n'était pas réalisable.
Mais c'est ça, c'est quand même lui qui a eu l'idée, mettons. Là.
Ouais.
Puis comme c'est pareil pour Rear Window, c'est toujours subjectif.
Ouais.
On ne verra jamais vraiment ce qui se passe au côté. Là. Comme nous autres, on est là. T'sais, on est la caméra, on est le voyeur. Là. On est James Stewart.
Qui est un journaliste. Puis qui, justement, ça attend qu'il y ait des appareils photo avec des objectifs.
Mm.
Des télé-objectifs.
Ouais, il y avait une machine de balle.
Des jumelles, tu sais. Puis ça, c'était en plus à huis clos dans un studio. Pour faire les deux blocs appartements, si on veut. Puis il y a bien du monde sur toute la planète qui allait pour aller visiter ce studio exceptionnel-là.
Une autre technique, ben, là, on connaît maintenant le truc, là, mais comme The Rope,
oui.
C'était ben, supposément là, juste un long plan séquence, ce qui n'est pas le cas, parce que c'était impossible de faire ça à l'époque. Là.
C'est ça.
Mais quand même, pour le temps, c'est bien fait pareil quand tu y penses.
Ouais. J'avoue avoir été un peu déçu.
Ouais, ben là, on recule de 50 ans, 60 ans même. Là,
mais, comment je pourrais dire?
C'était
facile. Il a osé.
Ben oui,
l'audace était là.
C'est ça, il a essayé. Ben alors, on parle ici de Rope, c'est parce que d'autres, on sait maintenant, quand on passait d'une scène à une autre, ou devant, je sais pas, une plante, là, on savait que c'était là que le montage se faisait. On coupait, parce que la pellicule était finie. Il n'avait pas assez de pellicule.
Je pense que c'était environ 10 minutes de pellicule.
Ouais, c'est ça, tu sais.
Donc, mettons, parce que je me souviens, il y avait une genre de réunion dans un appartement. Mettons, quelqu'un faisait par exprès pour passer.
Ouais, c'est ça.
Très, très près.
Ou rouvre la valise.
Exactement.
Carrément devant l'année. C'est pas très subtil, mais pour l'époque, c'était bien fait. Ça donne l'impression que c'était non-stop pendant 1h30, 2h.
Il détestait tourner en extérieur.
Ben, oui, ça.
L'éclairage, le son, il faut tout en
faire. Ben, lui, il a besoin de maîtriser tout au complet.
Ça coûte cher.
Être dehors en assure, là, c'est pas évident.
Ouais.
Il maîtrise pas tout.
Puis en même temps, c'est un peu confus parce qu'il voulait quelque chose de le plus possible réaliste. Sauf que des fois, ça paraissait que c'était pas réel. Ils ont souvent aussi utilisé, tant qu'à parler de technique, souvent utilisé la technique de l'écran jaune de sodium pour faire l'intégration. C'est un genre de blue screen, si on veut.
Okay.
Bon, je me rappelle pas exactement tout le procédé, mais ils l'ont utilisé beaucoup dans Les Oiseaux, entre autres.
OK. C'est pas le style, genre, on conduit, puis en arrière, on voit la route qui roule.
Ben, peut-être pour ça,
mais... C'est pas la crédible auto, là.
Mais beaucoup pour... Pas nécessairement dans une voiture, là, mais... Déjà dehors, là, mettons.
Déjà, Psycho, c'est une autre affaire, une autre technique, une autre innovation, tu sais. L'héroïne qui coûte pas une fortune, mais quand même, pour l'époque, elle coûtait un certain montant. Il s'en débarrasse à 30 minutes plus tard, puis le film fait 1h30, tu sais.
Si on se fie au film Hitchcock, il a demandé l'avis à Alma, sa femme.
Mm.
Qu'est-ce que tu penses que, à moitié du film, la vedette part?
Ah, ouais, ça. Alma avait un gros poids, quand même, on savait pas, là.
Mais elle, Alma, a dit, tu devrais la faire partir encore plus de bonheur.
Tant qu'à ça, tu sais. Il faisait confiance à sa femme, ça paraît pas.
Ben, là, c'était sa moitié. Mm. Elle connaissait quasiment autant que lui comment qu'on fait, puis les lentilles à choisir. Puis...
Ouais, c'est un grand bébé, hein, fait qu'il était.
Quand Alfred était malade ou quoi que ce soit, elle arrivait sur le plateau, elle prenait ça en main, puis bing-bang, ça a l'autre chose.
C'est ça. Elle avait autant de poids que si c'était Hitchcock lui-même.
Là. Fait que là, de fil en aiguille, on s'est comme épuvardé dans
une couple de classiques.
Couple de films en disant justement les points forts. Mais on peut s'attarder peut-être à certains films en disant qui a joué dedans. Puis,
Entre autres. D'ailleurs, Hitchcock, il a toujours... Ben, pas détesté nécessairement les comédiens et les acteurs, mais pour lui, un acteur, c'est comme un carrosse, là. C'est comme un chariot. C'est fait pour être tiré, pour être manipulé, pour être chargé. Ah ouais.
Ben justement, on parlait de Vertigo.
Ouais.
Sueur froide.
C'est ça en français?
Eh oui.
Ah, c'est ça le titre en français?
Avec Kim Novak et James Stewart.
James Stewart, qui a fait une coupe de film avec...
Oui, oui, c'est sûr. C'est comme son acteur fétiche.
Non.
Non?
Ben, en fait, oui. C'est son acteur fétiche, mais l'acteur avec qui aime, qui a toujours aimé travailler avec, c'est Cary Grant.
OK.
Cary Grant, d'ailleurs, qui a fait La mort aux trousses, entre autres. Les autres, je ne me rappelle pas les autres. D'autres titres, pardon.
Ben, c'est un film de 58.
On parle de Vertigo, là.
Oui. Puis, je sais pas quoi dire parce qu'on on vient d'en parler pas mal aussi.
Ouais, c'est ça.
Apparemment, encore une fois, c'est parce qu'on va souvent se référer au film. On va souvent se référer au film Hitchcock parce qu'ils en ont parlé de sa carrière un peu. Mais apparemment que Vertigo était un fiasco dans ce temps-là.
Ben, c'est pas.
Tu sais, je veux dire, il a mal passé.
Ben, plusieurs films de Hitchcock, la critique a apprécié, mais le public suivait pas toujours.
Ce film-là a été apprécié avec le temps.
D'ailleurs, pour Psycho, c'est ça qui est arrivé finalement. Là. Personne ne voulait le tourner. Personne ne voulait le produire.
Ouais. Par contre, ça donne un succès.
Ben oui. Mais c'est ça, il y a une tête de cochon, Hitchcock. Ouais. Bon, ceux qui ont vu le film avec Anthony Hopkins, ils savent de quoi qu'on parle.
Ouais, c'est ça.
Il a décidé de le faire pareil. Là. Mais ça a toujours été des classiques. C'est grâce à Hitchcock d'ailleurs que maintenant. On peut dire qu'on met un nom de réalisateur au début d'un film, d'un titre de film. C'est Hitchcock présente. Mettons, Hitchcock's Vertigo.
Ouais.
C'est un peu comme John Carpenter, c'est le cas. Spielberg, c'est le cas. Scorsese. Il y a quelques grands réalisateurs qui peuvent se targuer d'être comme ça. Hitchcock, c'est un des premiers à l'avoir.
Et le fil en aiguille. Comme vous le savez sûrement, Hitchcock apparaît en caméo
dans
la plupart de ses films. Bon.
C'est sa signature, une de ses signatures.
Il y en a qui diraient, est-ce que c'est une sorte de narcissisme? Ouais. Ouais. Non, c'est qu'en fait, dans ses premiers films, comme il n'y avait pas beaucoup de budget, pas beaucoup de figurants, ben, il dit, je vais faire un figurant, moi aussi. Ça. Sauf que le monde le reconnaissait, vu sa forme.
Corpulence.
C'est ça. Et là, plus ça allait, plus les gens pensaient que c'était voulu, donc le cherchaient à chaque film. Fait que là, il était déçu quand il n'était pas là. Fait que forcé de
poursuivre
la tradition.
Il a profité de ça, en même temps, pour dire si ça peut les détourner de l'intrigue, puis les fucker un peu, puis leur changer les idées, il va le faire. Mais il a poussé l'idée jusqu'à pas juste se présenter lui-même physiquement. Des fois, c'était comme une photo de lui.
Ouais.
Ou un reflet.
Oui, sa silhouette, son ombre.
Oui, entre autres.
Ouais. Je sais aussi que Hitchcock était très à l'écoute de son équipe. Scénariste, assistant, tout ça. Il disait aussi qu'il était très, très humain, très chaleureux. Évidemment, il avait
son petit... Très blagueur.
Non, c'est ça, son petit sens de l'humour.
Très, très blagueur. Il avait fait des... Comme j'ai vu une anecdote à un moment donné où il avait invité plein d'amis à un souper, puis il avait peinturé toute la bouffe en bleu. Ben oui, c'est une idée comme un autre. Ça viendrait même pas à l'esprit de penser. Là. Mais c'est ça. C'est ce genre de niaiserie-là.
As-tu quelque chose à rajouter sur Vertigo?
Non, peut-être lui, ça fait longtemps que j'ai pas lu. D'ailleurs, ça manque à ma culture. Là, fait un bout. Mais généralement, tous ces films étaient toujours tirés d'un roman ou d'une nouvelle. Ou, c'est rare, c'était quelque chose d'original.
Hey, confesse, ben, on va en parler certains. C'est dans notre ville.
C'est ça, ça se passait à Québec.
Tourné à Québec, puis c'était mentionné dans l'histoire, je pense, en plus.
Ouais.
Quebec City.
C'est Montgomery Cliff qui faisait le prêtre.
C'est aussi avec Anne Baxter. D'ailleurs, j'ai vu sur Internet, je pense que c'est notre cher ami Lionel de Cinéma Passion qui a ça dans sa collection, une photographie noir et blanc dans les rues de Limoilou où on voit Alfred Hitchcock et Anne Baxter.
Ah ouais?
Carrément dans une rue de Limoilou.
Ah, ouais.
Ouais.
Ça doit être la fun à voir, ça.
Fait que ça, c'est un film de 53.
Je me rappelle d'avoir vu des images de la première, qui était au cinéma de Paris, ben, à la place Youville, là. Avec Hitchcock qui était là, puis.
T'étais là, toi.
Mais non, les images. J'étais pas dire que j'ai vu des images. En noir et blanc, là.
Ok. Ouais, ça doit être quelque chose.
Ah, oui, ça devait être de quoi, certain. Là. Mais ouais, t'allais dire, excuse, je t'ai coupé, là.
Que c'est un film de 1953.
Oui.
En gros, c'était quoi dans l'histoire?
Lui, il jouait là-dessus. Là, il jouait sur le fameux... quand tu dis quelque chose à un prêtre, puis il ne répétera jamais. Là. Puis là, justement, le prêtre, là, il vient apprendre c'est qui le meurtrier. Puis là, il faut qu'il... Est-ce que je vais le dire? Est-ce que je vais le dénoncer? Est-ce que je le dénonce pas? T'sais? Bon, il jouait là-dessus. C'est pas son meilleur film à Hitchcock, pareil. Là.
Non.
Mais on peut... On se traite l'ego, nous autres. Petit Québécois, là.
Mm-hmm. Autre chose sur ce film?
Non, ben, plus ou moins. Là.
Alors, passons aux choses sérieuses.
Il a fait beaucoup de films en anglais, entre autres, une trentaine de films. Ben, ça, c'est le classique. Ben, puis, oui, un des plus gros.
Le succès, Psycho.
Qui a coûté rien. Ben, en fait, c'est sûr que c'est juste à Hitchcock à l'époque, il va me tirer. Là.
Non, ben, en fait,
c'est... Parce qu'il a mis sa fortune là-dessus à lui. Là.
Oui, mais en même temps, c'est lui, au départ, qui a dit, là, je voudrais faire un film qui ne coûte pas les yeux de la tête.
Ben, il n'y a pas le choix, c'est son cash.
Non, mais même avant ça, même avant qu'il sache que Paramount ne voulait pas le financer, il voulait avoir des acteurs qui ne coûtent pas cher, utiliser sa propre équipe pour son émission de télévision. Puis c'est ça, là, tu sais, pas aller chercher trop de gros noms.
Ben, il n'y a pas grand nom. Comment ça s'appelle, donc? Adonna Perkins, à l'époque, là, c'était pas connu. Janet Leigh était connue, par exemple.
Ouais, ouais. Puis le scénariste Joseph Stefano, je pense qu'il était sur place dans les studios. Là, puis...
Ouais. Mais il commençait lui aussi, là, il débutait. Là.
Ouais.
C'est comme Vera Miles, c'était une habituée de Hitchcock, là, elle avait un contrat.
Vera Miles était censée de jouer dans Vertigo, mais est tombée enceinte
deux semaines
avant le tournage. Il en parle dans Hitchcock, d'ailleurs. Puis finalement, ben, elle lui devait un dernier film.
Et
qui a fait, OK, tu vas faire la sœur de Marion.
Ça, bouge le tout.
Psycho, ben, évidemment, histoire vraie. C'est parti d'une histoire vraie.
Ouais, à partir
de Ed Gein, un tueur du Wisconsin qui tue sa mère, qui tue ses voisines. Ouais,
un dérangé.
Ouais. De là est parti un roman de M. Bloch, là, Robert Bloch. Un roman très gore, parce que si on pense à la fameuse scène de la douche, il était même question de décapiter la tête.
Ah, OK.
C'était ça. Vraiment...
On l'apprend dans le film, ça?
On l'apprend dans le film... On l'apprend... Non, je l'apprends, c'est parce que j'ai vu le making of aussi.
OK, c'est ça.
Ouais. Fait que, ben c'est ça, Joseph Stefano, justement, lui, a ramené ça un peu plus esthétique. Et évidemment, pourquoi le monde dirait, ben pourquoi tout d'un coup on était rendu dans un film en couleur, et puis Psycho est en noir et blanc, t'sais? C'est que ça aurait été trop gore pour l'époque. Là. D'ailleurs, pour le sang dans la douche, c'est du chocolat, là, du chocolat liquide. Là.
Ah, ça, je savais pas.
Ouais. Ils ont essayé différents trucs, là, mais c'est ça qui marchait le mieux. Là. Point de vue...
La fameuse scène. Puis d'ailleurs, il se passe, on voit pas grand-chose, pareil.
Non.
Il y a encore beaucoup de montage, pareil.
Là, c'est sûr que je me laisse aller, puis je vous dis plein de trucs qu'on apprend aussi dans le film Hitchcock, là. Mais moi, je suis rendu que je mélange le film Hitchcock et le making of parce que je les ai vus trop ensemble.
Okay.
Mais c'est que pour la scène de la douche, ils ont vraiment fabriqué une douche exprès pour. Parce qu'évidemment, premièrement, tu ne tournes pas ça dans une salle de bain, des trous à l'écart.
Non, c'est ça. Des trous, t'es coincé. Ouais.
Ils faisaient en sorte que Janet Leigh ait toujours de l'eau chaude, que ce soit confortable comme scène. Mm. Parce que ça a pris 7 jours de tourner cette scène-là.
Ben, ils savaient quoi, de quoi ils s'embarquaient, là.
vous savez, il y a un plan où que l'eau arrive carrément vers la caméra.
Mm.
Mais il n'y a pas d'eau dans la lentille. Donc, il a fallu qu'il patente quelque chose un petit peu pour ça. Fait que c'est...
Tu l'es?
Ah oui.
Ah, il brillait, pareil, le gars.
Ouais.
Ben, vous dire, son équipe était brillante. Il cherchait des trucs. Hey, on recule en 1960, de 53 ans. Hein. Ça paraît en temps, ben, ouais.
C'est un film qui est sorti en 1960. Film qui, pour la première fois, montrait des toilettes à l'écran. Et en fonction, en plus. C'est ça, il y a eu beaucoup de misère avec le fameux comité de censure.
De censure, oui, c'est ça. Non, puis il n'y avait pas d'amis, là.
Non. J'avoue, tu sais, quand tu ne sais pas ce qui se passe en arrière d'un film, là, tu dis, ah, Psycho, hein, c'est le meilleur film, là, là. Là, t'apprends tout ça, toute la misère qui vient derrière ça. Il a failli pas sortir, ce film-là. Là.
Ouais. Oui.
Ce qui est intéressant, encore une fois, son audace, c'est qu'il s'est dit, parce que, bon, Alma, sa femme, le roman, regardait ça, puis...
C'est de... À trouver ça proche, là.
Mais lui disait, mais si un bon réalisateur faisait ce genre de petit film d'horreur, qu'est-ce que ça pourrait donner?
Il se flattait un peu l'ego, là. Mais lui, sa phobie, c'était... Une de ses phobies aussi, c'était toujours essayer de surpasser le précédent film.
Oui.
Toujours être... à l'avenir, d'être meilleur que... Puis il faut que le public suive aussi. Il voulait faire plaisir au public, là. Mais son premier public, c'était sa femme, puis lui.
Oui. Et à chaque nouveau projet, il est toujours en panne d'inspiration.
Puis pourtant, il était prolifique, là. Quasiment un film aux 2 ans maximum, là, en fait.
Quand il a décidé que c'était Psycho qui faisait, il a demandé à toute son équipe qui a acheté tous les romans disponibles. Pour être sûr que personne, à partir de ce moment-là, en sache trop sur l'histoire.
Ben, il y avait de l'argent, hein. À ce moment-là, il y avait du cash. Là. C'était payant, pareil. Mm-hmm.
J'avoue, bon, en tout cas, je ne sais pas dans la manière que c'est présenté de la film Hitchcock, mais je ne savais pas que lui vivait une situation comme ça avec sa femme pendant ce tournage-là. T'sais.
Ben, situation, tu veux dire...
Un petit peu confusion.
Cocufière, ouais. Ben, c'est pas lui qui est cocufière, en fait, là.
Non, c'est ça.
Lui, il était très impliqué dans le projet, au point de qu'il ne se passait plus rien autour de lui, là. À part lui, puis le projet. Là, c'est sûr, c'est romancé un petit peu, là, le film. Ben, on parle de Hitchcock de Gervaisie.
C'est encore une fois Bernard Herrmann qui a fait de la musique.
Oui. La scène de la douche. Hein.
Je rendrais encore en train de vendre des pommes du film, là, à Hitchcock, mais je pense qu'il disait qu'il voulait pas de musique dans cette scène-là. Puis que Berman, il dit non, vraiment, là, laisse-moi le temps de te montrer qu'est-ce que ça pourrait donner. Et ça fait OK, ouais, c'est une idée. Ouais.
Ouais, c'est ça, parce que c'est pas de la musique en soi. Hein. Ben, à part quand on voit le sang, puis le violon, là, mais c'est pas de la musique. Là,
mais que fais-je? On parle de Psycho depuis au moins. 20 minutes, puis j'ai pas mis un drame.
Ben oui, c'est vrai. Hein? Elle est bonne, la musique.
Je suis sûr que j'oublie plein d'affaires, mais tant qu'à faire, je vais juste rapidement parler qu'il y a eu des suites.
Oui, ouais. Il n'y a pas beaucoup de films d'Hitchcock qui a eu des suites.
Non. Mais on s'entend que ça,
Hitchcock c'est... Hitchcock n'en faisait pas de suite, de toute façon.
Non, c'est ça. Mais il y a eu Psycho 2, 3 et 4. Anthony Perkins joue dans les trois. Puis c'est ça que je trouvais quand même intéressant. Parce
c'est
qu'il
y a quoi quatre... le temps entre le premier et le deuxième?
Ouf, va donner un peu plus.
Une vingtaine d'années?
Si on en croit Norman Bates, c'est 17 ans.
Norman Bates? Bon, je sais c'est qui, mais vous
avez... Non, mais les autres dans l'histoire, ils disent que c'est 17 ans.
OK. Là, on est en train de regarder...
83. Pour Psycho 2.
Qui était tourné par...
Par Bernardo Schwartz.
Non, c'est pas Richard...
Ah non, excusez.
Richard Franklin?
Plutôt, oui. Okay. Richard Franklin.
Franklin, OK, bon. Qui était une suite carrément.
Une suite carrément. On le voit ensemble, mais tu t'en rappelles pas vraiment.
Non, je... Il y a des films qu'on oublie. T'sais.
Non, mais c'est le moins pire des suites, hein.
Des quatre, je veux dire, c'est des ça. Trois, je veux dire.
ce qui est intéressant, ben, intéressant, en tout cas, Vera Miles ajoute dedans. Et ce que je veux dire par intéressant, c'est l'authenticité. Ça nous plug avec l'original, pareil. Okay. Anthony Perkins, Vera Miles. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme voir l'autre côté de la médaille. Si on se fait au premier, Norman Bates, il est devenu carrément Madame Bates, puis
ouais.
Probablement qu'il guérira jamais. Mais admettons que le traitement fonctionne, puis il a l'air d'être guéri, puis qu'on le sort. Qu'est-ce que ça donne? T'sais? Il est dans cet optique-là, c'est
intéressant. Ouais, là, il était un peu schizo. Là. Il ne savait plus trop qui était le bien et le mal. Puis...
Ben, c'est pas juste ça. C'est qu'il y a quelqu'un de mystérieux qui faisait par exprès pour le provoquer,
ouais.
Pour voir si ça ressortait. Le troisième, ben, il était réalisé par Anthony Perkins.
Ça, c'est en 86, 87?
C'est en 86. Et c'était pas terrible. on essaye de réimiter le premier un peu. Okay. Il y a une fille qui arrive là, qui ressemble à Janet Leigh, mais elle ressemble
qui arrive à l'hôtel. Là.
C'est ça.
Fait que je... OK, ça, qui ressemble à peut-être une ancienne victime, puis là, ça, il retourne dans son passé.
Exactement. Puis, okay. Elle a la même valise.
Posez pas, ça.
Et le quatrième, qui est écrit par Joseph Stefano, le scénariste original.
Ouais.
Et si je ne me trompe pas, le fameux psychiatre là, qui explique tout à la fin du premier film, là, ben il apparaît aussi.
OK.
Et en fait, c'est quasiment un prequel. C'est-à-dire qu'Anthony Perkins, il est là, mais il appelle à une ligne ouverte, une émission de radio, dont le sujet, c'est la matricide, donc le garçon qui tue sa mère. Et il raconte son histoire. On retourne dans le passé, la jeunesse de Norman Bates. On voit Madame Bates en vie.
Wow.
Et d'ailleurs, c'est le nom, ça sûrement peut-être à reconnaître. Ça se peut-tu, c'est Olivia Hussey?
Oui, c'en est une, ça. C'est une comédienne connue, oui.
Fait que.
Ça, ouais. Tu dis que ce serait elle, la mère?
Oui, oui.
Okay.
Je m'attendais pas, ben c'est sûr, il est plus jeune. Je m'attendais, tu sais, tellement habitué d'avoir une. D'imaginer une vieille madame.
Ouais.
Que là, elle était quand même un peu plus jeune. Et on voit là que. Était quelque chose.
Là, il nous explique pourquoi il aurait tué sa mère.
C'est ça. Okay. Il a empoisonné sa mère et le beau-père.
Okay. C'est Perkins encore qui réalise?
Non. À ce moment-là, c'est Mick Garris.
Ah, Garris qui était réputé dans les années 90 pour faire des suites pof, mettons. Genre Critters.
OK. Et en faisant mes recherches dans les dernières semaines, j'ai découvert que maintenant, il y a une série télé qui s'appelle Bates Motel.
Ah, ouais?
Qui a l'air d'être une adaptation revisiter la jeunesse de Norman Bates. Dans le fond, ça a l'air de se passer de nos jours. Là. Ça n'a plus rapport avec les années 60. T'sais. Ça ne suit plus le timeline.
OK, OK.
C'est vraiment un genre de remake.
Ah, pourquoi pas?
Plus cool, pas quoi.
Bon. Fait que c'est pour Psycho.
Fait que, en tout cas, si j'ai d'autres choses, je vous le dirai. Ce qui nous amène à son.
Excusez.
À son autre succès, quand même.
Que c'est le succès qui a suivi, ça?
Oui.
Ben, quand même, hein. C'est une bonne période,
là. Puis ça, je pense. Je suis pas sûr que c'est inspiré d'un roman. Je pense que c'était carrément inspiré d'un article dans un journal où il y avait vraiment eu une attaque d'oiseaux. Oh, je viens de le dire.
Oh, God.
The Birds. Évidemment, pas une attaque aussi intense que dans le film. Là,
ben mais... non, je suis encore là.
Ouais.
C'était pas très intense quand tu regardes maintenant.
Non. Mais pour l'époque.
Ben pour l'époque, oui. Pour l'époque, c'était effrayant. Là. Puis encore là, effrayant, tu sais. C'est des oiseaux quand même.
Ouais.
Des petits oiseaux, des petites ménates, des petits moineaux, tout ça. Là.
Ben en fait, il y avait des mouettes.
Un peu de tout, ouais.
Des corbeaux qui sont très intelligents, sont faciles à dresser. Les mouettes, pas du tout.
D'ailleurs, c'est ça qui était le fun du film Hitchcock. Au début et à la fin.
Oui.
La finale du film. Mm-hmm. On parle du film avec Hopkins. Ou en tout cas, quand il y a un petit punch. Qu'est-ce que je pourrais bien tourner? Mm-hmm. Quelque chose. Ah là là là.
Ah ben, ils disent que c'est son 48e long métrage.
Déjà. 48e en 1963. Ben, c'est sûr qu'il était productif en Angleterre. Là.
C'était avec Tippi Hedren, qui est une mannequin. C'était son premier film. Et Rod Taylor dans le rôle masculin.
Il n'y avait pas de gros noms. Veronica Cartwright a joué là-dedans. Cartwright, qui est celle qui a joué dans Alien.
Oui, ben oui. Mm-hmm. Et ça, c'est la petite Cathy dans The Birds, la petite fille.
Elle était jeune. Oui, c'est sûr qu'elle était jeune. Là. Ouais. Alien, c'est en 1979.
Ben, oui. D'ailleurs, je pense que dans le making-up, elle disait qu'elle a 13 ans.
C'est ça. Fait qu'elle avait 29 ans. Là.
Puis dans Alien, ben c'est elle qui se fait donner une claque d'en face par ça qu'on est Weaver.
Ouais, elle était un peu folle.
Il y a eu différentes techniques pour les oiseaux, pour les attaques. Tantôt, je parlais des mouettes. C'est qu'ils mettaient des morceaux de pain dans les cheveux des enfants, puis ça. Les mouettes. Comme ça, ils les suivaient. Il y avait des oiseaux mécaniques.
Ouais.
Et il y avait justement, ce que je parlais tantôt, le fameux écran jaune de sodium. Mm. Pour faire la superposition dans certaines scènes. Dont la scène à l'intérieur de la maison, quand tous les oiseaux passent
par la cheminée. Là.
Ils ont essayé de le faire avec, mais c'était pas faisable. Avec les oiseaux intégrés, je pense.
Okay.
Mais ça fonctionnait pas. Fait que... Mais c'était quand même pas si mal. Moi, j'étais là. Non, c'est-tu vrai? C'est pas vrai.
Bon, c'est sûr qu'on... Il travaillait beaucoup l'image, puis sur Storyboard, il devait se dire que ça va donner quelque chose de beau. Là.
Moi, ma scène préférée, c'est celle des corbeaux à côté de l'école.
Sur le module de jeu? Là.
Oui.
Oui.
Et justement, comme je disais tantôt, c'est, eux autres sont intelligents, c'est les corbeaux, donc pour moi, ils ont réussi à...
Quand il fait champ contre champ, puis un petit peu, on revient, il est un petit peu plus, on revient.
Puis... Et après ça, il attend beaucoup. Sauf qu'au lieu de montrer instantanément, Tipeee, je ne me souviens plus de son nom, de son personnage, elle regarde dans le ciel, puis on voit un oiseau qui s'en vient. Fait que là, on le suit. Et quand il atterrit avec les autres, il y a à peu près 30 oiseaux. Puis il n'y a pas de musique, là. Ce film-là, il n'y a pas de musique.
Ah non?
Non. Tout ce que tu as, c'est les effets sonores des oiseaux.
OK.
Puis ça fait la job.
C'est pour ça que je n'ai pas vu, quand je regardais le générique, je cherchais le nom du compositeur.
Une autre scène marquante, c'est l'espèce de monsieur mort qu'on trouve dans sa maison avec les yeux arrachés.
Mm.
Et qui nous montre ça en travelling entrecoupé en trois plans, de plus en plus proche. Au lieu de faire un travelling qui avance, c'est trois plans fixes, mais de plus en plus proches.
Ouais, mais maintenant...
Genre, ton esprit a vu de quoi? Hein, c'était quoi ça? Et te le remonte encore plus proche? Hein, c'est dégueulasse, mais t'en remontes encore plus proche. Et encore une fois, pas de musique. Moi, j'étais sûr dans mon souvenir qu'il y avait de musique, parce que cet effet-là a tellement été repris dans d'autres films d'horreur. T'sais. Puis il appuie toujours le bang, bang, bang. T'sais. Là, pas besoin.
Ah ouais, ça fait longtemps aussi que je l'ai pas vu, ça. Pardon. Mais tu disais que c'est pas tiré de... C'est tiré de nouvelles, ça, là, pareil.
Oui, c'est écrit.
Oui, c'est marqué une nouvelle de Daphné Dumouriez.
OK. Mais c'est parce que dans un making-of, j'ai cru voir une page de journal où il y avait une attaque aussi.
Bon, sûrement qu'il a fait un mix des deux, quand même.
Oui, c'est ça. Ou c'est peut-être l'auteur du roman qui s'est...
Ben, le scénario, il était de Evan Hunter. Oh. Là, non, c'est vrai, j'allais dire... De réchanger la musique, mais on peut pas changer la musique, il n'y en a pas.
Là, je viens de voir de quoi de spécial.
Ouais.
Aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma d'épouvante, le film a fait l'objet d'un remake pour la télévision intitulé Les Oiseaux 2.
Ouais, ça oui.
Réalisé en 94 et avec Tipeee Edwin encore.
Ouais, ben c'est un. Ben c'est ça, c'est un remake. J'ai pas vu. Mais.
Un téléfilm, là.
C'est ça, c'est un téléfilm. Bon, c'est ça. Bon, c'est pas mal ça pour The Birds.
Oui. Moi, je parlerais de... C'est quoi, non? Frenzy
en anglais.
Oui, Frenzy. 1972.
Bon, il y en a plusieurs avant. Frenzy, c'est son dernier qui l'a remis sur la map parce que, bon, auparavant, il s'est essayé avec des films qui n'ont pas pogné comme Kurt de... C'est quoi, non? The Curtain Torn, je pense. Ça n'a pas pogné. Marnie, ça n'a pas vraiment pogné. après Frenzy ou avant Frenzy, qui c'est quoi donc? Complot de famille, ça a pogné ça. C'est peut-être son dernier même, je pense. En 1974 ou 76. Parce que à la fin, là, il faisait plus rien. Ben, à cause de sa maladie aussi.
Apparemment qu'en 2012, il y a un livre sur le sujet du film, justement, Frenzy. The Last Masterpiece by Raymond Foray.
Mais lui, je l'ai pas vu.
Moi, je l'ai vu.
Frenzy, tu l'as vu? Okay.
C'est un tueur de femmes qui tue les femmes avec une cravate.
OK.
Et il y a une scène mémorable. Il nous joue encore le... Parce que je me rappelle bien, il nous joue encore le tour que l'héroïne va disparaître à peu près au milieu du film ou un petit peu avant. OK?
OK.
Mais plutôt que de faire ça très... au lieu de nous montrer autant qu'un homme psycho... Ça va être carrément caché. Fait qu'on. Nous autres, maintenant, on voit c'est qui le tueur. On voit qu'il a fait toutes nos deux victimes.
On sait c'est qui.
C'est ça.
Okay.
Fait que l'héroïne, elle s'en va le rencontrer. Elle ne sait pas qu'elle est un tueur. Nous autres, on le sait. Fait qu'elle s'en va le rencontrer dans un hôtel. Mais pas un hôtel isolé comme un hôtel base. Là. Un hôtel en pleine ville. Là. Fait que sur le deuxième étage, elle cogne. Elle rentre. Mais nous, avec la caméra, on n'entre pas dans la chambre.
Okay.
La porte se referme.
Puis on entend un
son. On n'entend absolument rien après la porte.
Okay.
Tranquillement, la caméra recule. Redescend les escaliers à reculons.
Okay.
Descend jusqu'en bas. Et là, plus qu'on approche du rez-de-chaussée, on commence à entendre les bruits de la ville dehors. On sort de l'hôtel, de reculons. Fait que là, les sons de la ville de plus en plus. On recule, on traverse la rue de reculons, les chars passent en avant.
Mais ça,
chars...
c'est pas un effet de recul. C'est vraiment... C'est
le caméraman recule.
Il recule carrément. Oh, oui. C'est ça.
Puis c'est ça. Avec là, c'est carrément le quotidien de la rue. T'sais,
on ressort, c'est vrai.
Trafic, puis il fait soleil, tout le kit. Puis une fois rendu de l'autre côté de la rue, la caméra monte, il fait juste montrer la fenêtre en haut.
OK.
Merci, bonsoir.
Puis là, on comprend ce qui se passe?
Ben, ça donne le feeling que là, il y a une fille qui est en train de se faire dessus, mais personne ne s'en rend compte.
Ah, c'est bon, ça. Ah, ouais, c'est pas pire.
Tu sais, moi, je le voyais genre, plus les sons ambiants dehors refont surface, ben, probablement que là, en haut, ça commence à brasser, mais on l'entend pas.
On l'entend pas, c'est ça. Ah, c'est bon.
C'est ingénieux.
Qui avait joué là-dedans? C'est John Finch, Alec McCowan et Barry Foster. Bon, j'en connais pas un là-dedans. Bon, peut-être John Finch vite de même. C'était basé sur un roman qui s'appelait Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square de Arthur Laburne. Bon, OK.
C'est comme je disais tantôt, c'est un film de 1972. Et ce que je me rappelle d'avoir su aussi, c'est que, comme je disais tantôt, il aime que ce soit réaliste le plus possible.
Mm-hmm.
Fait que pour lui, à un moment donné, la fille dont je viens de parler qui s'est fait tuer, puis il fallait qu'il y ait une scène qu'il fallait qu'il la mette dans une poche à patates.
OK.
Et pour lui, il n'était pas question de mettre une autre actrice dans la poche à patates.
C'était elle.
Ni une doubleuse, ni un mannequin. C'est elle qu'on met dans la poche à patates.
En entier, je veux dire?
Oui. Okay. Après ça, il la met dans un camion.
OK.
Fait que tu sais...
Ben, tu sais, rendu au point où on en était, Hitchcock avait une réputation. Imagine qu'un acteur n'ostinait pas, tu sais, t'as Hitchcock en face de toi qui dit, regarde, moi j'ai fait des. T'as vu là, ma filmographie, ce que j'ai fait dans ma vie, là? Fait que si je te dis, embarque dans la poche, rentre dans la poche. Là. Et l'acteur doit ostiner, il dit, ah, oui, je suis fier de jouer dans ton film, tu sais, je vais le faire. T'sais.
Honnêtement, c'est une autre scène que j'ai trouvée assez spéciale.
La poche de patate, ça?
Ben, c'est à cause que le tueur, tu sais, qui vient étrangler la fille, ouais. Il l'a mis dans la poche de patate, mais dans le camion. Parce que le monsieur, il a une genre de pin après son veston, je pense. Puis la fille, il a agrippé la pin.
Okay.
Donc la fille, dans la poche à patate, a la pin dans ses mains. Fait que là...
Puis lui, il n'a pas remarqué ça.
Puis lui, je pense en fait que c'est pas à lui le camion. Lui, il a mis ça là en sachant que le camion s'en irait. T'sais. Fait que là, c'est d'aller dans le camion, le soir. C'est sobrement éclairé. T'sais. Ouvrir la poche avec cette fille morte étranglée. Qui t'a une face de fille étranglée. C'est assez freakant, je te dirais.
Ah ouais?
Là, ben, il faut qu'il essaye de trouver sa pin. C'est quelque chose. T'sais, c'est un genre de regard apeuré qui te regarde, mais qui est mort en plus.
OK, c'est... OK, l'atmosphère lugubre, lourd, puis froid. Puis...
Ouais.
Ben, c'est bien, ça, c'est le fun.
Ouais.
Ça met suspense, tu sais, ça. Ben, c'est ça. Il est réputé pour ça.
Ouais.
Mettre du suspense. T'es toujours dans l'esprit que elle pourrait bouger, elle pourrait respirer,
pas besoin de bouger, rien que sa face de même, c'est déjà en masse. En tout cas, c'est peut-être mon souvenir qui a trop amplifié les choses comme avec un certain film.
Ouais.
Mais tu sais, imagine là, cette face-là. Hein?
Mm.
Imagine que c'est de même à côté, penché à terre.
Là, il fait référence au poster, là.
Ouais,
le poster de Frenzy.
Ah ben c'est pas pire, on voit même la cravate.
Ouais, c'est ça, j'ai vu ça la cravate, ta flash.
Ça me le prend!
Le film ou le poster?
Bon, les deux. Parce que je vais déménager, je vais dans un super grand 4,5.
Bon, la sera un petit peu de déco.
Cinéma partout. Même dans la salle de bain.
La musique de celle-là, c'est de Frenzy, c'était de Ron Goodwin. C'était plus Herman. Ni Waxman, parce que Waxman aussi a travaillé là-dessus.
OK.
J'ai travaillé, si je ne me trompe pas, c'était sur Rear Window, je pense. Entre autres. On n'a pas nommé des films comme La mort aux tous, 39 Steps, 39 Steps, on l'a pas nommé. Ça, c'est un autre bon film anglais.
Dial M, for Murder.
Oui, oui. D'ailleurs, qui a fait l'objet de remake lui aussi avec Michael Douglas et Gwyneth Paltrow.
Oui.
Entre autres. Viggo Mortensen aussi, je pense, jouait dedans.
Qui?
Mortensen. Viggo.
OK.
Il me semble, en tout cas. Je suis pas sûr, là, mais il va venir moi.
Ouais.
Il me semble. D'ailleurs, moi, ça c'était un bon, ça aussi. Marnie, je l'ai nommé tantôt, ça c'était la période des années 60 avec Sean Connery, qui n'a pas pogné. Les années 60 a été. Ben, à la fin des années 60, ça a été une période un petit peu plus lourde, un peu pour Hitchcock.
Le feu dans l'aiguille, ouais. Sean Connery.
Ouais.
Alfred Hitchcock, il s'est fait offert de faire Casino Royale.
Ah ouais, c'est vrai.
Et il a répondu pourquoi je ferais Casino Royale? Je viens de le faire. C'est la mort aux trousses.
C'est vrai. Oui, je l'ai lu, ça qui passe, c'est vrai. Ah oui, c'est pas fou.
Évidemment, on vous parle de. On vous parle pas de Casino Royale avec ça.
Non. Non, le premier Casino Royale de Fleming, là.
Qui avait une saveur un peu
plus. Ben, en fait, il n'a jamais eu Casino Royale en soi. Sinon, si on parle du pastiche des années 60 avec Peter Sellers, là.
C'est ça.
Tu parles de celle-là, qui s'avait offert?
Oui.
Oh, c'est une comédie carrément.
Ben, c'est ça, c'était ça qui.
Ah, Hitchcock. Ben, Hitchcock a toujours considéré ses films comme des comédies.
Ouais.
Il l'a dit, là. Mais Psycho, là, c'est une grosse comédie pour moi, là. C'est ça qu'elle dit, là.
Ouais.
Moi, je trouve pas, là. Je sais pas où il voit son comique là-dessus, là. Mais lui, là, il considère ça comme ça, là. Mais s'il tourne Casino Royale, je suis pas sûr que ça va virer comique comme le film qu'on a.
Non.
Qui a été tourné avec Woody Allen, là. En tout cas. Fait que c'est ça, je pense, hein. On a fait un survol rapide de sa carrière et de ses gros classiques. Là, on pourrait parler un petit peu du film qui a été fait sur
oui, mais on va prendre une pause.
Oui, je dirais pas non.
Cinécure Club Vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miran à Sainte-Foy. 418-682-3333 pour le film qu'il vous faut.
Vous croyez en la vie après la mort, les fantômes, les cas de possession. Alors écoutez Fréquence, l'émission où les morts vous parlent. Au www.fréquence.net.
Ce podcast est hébergé par 3Dev sur un serveur québécois. Vivez la vitesse en consultant le vite.3dev.net. Dépêchez-vous!
Vous écoutez toujours notre émission sur Alfred Hitchcock. Et je viens d'avoir un flash.
Oui.
N'oubliez de mentionner que la fille d'Hitchcock, Patricia, a joué dans Psycho.
Ah ouais, vous avez quoi?
Je faisais la secrétaire dans le bureau où Marion travaille.
Ah ouais, elle avait quel âge?
Elle était pas vieille.
Ouais.
Mais elle faisait la secrétaire.
OK.
Donc, on est rendu à parler du film Hitchcock.
Oui. D'ailleurs, c'est surprenant de voir qu'il y a peu de films sur Hitchcock pareil.
Oui, oui.
Il y a eu quand même beaucoup de documentaires, ça c'est sûr. Là. Mais bon, Hitchcock, c'est quand même une sommité du cinéma.
Qui malheureusement n'a jamais gagné
non.
De prix.
Aucun.
Il y a eu un prix, bon, général pour sa carrière.
Honorifique. Hein. Puis il a été fait cire. Cire par. Anobli par la reine à la fin des années 70. Puis tout ce qu'il disait à ça, c'est pourquoi est-ce que vous n'avez pas été anobli avant? Il dit, bon, ça doit être comme les Anglais comme d'habitude, là, ils ont oublié, puis ils s'en foutaient. Il a toujours eu un franc-parler, Hitchcock. Mais il avait rien à cacher. Hein.
Non.
Oui, on parle de son film.
Oui.
Interprété par un autre sire, Anthony Hopkins.
Avec un certain maquillage.
Oui, pas chouette.
Qui nous fait oublier le Anthony Hopkins qu'on était habitué de voir.
C'est bien fait, pareil.
Oui.
Mais franchement, là. Puis le film en soi était intéressant parce qu'il y a beaucoup de clins d'œil.
Oui.
Pas juste au film Psycho, mais des clins d'œil à plein de films. Il y a plein de techniques qu'il utilisait.
Moi, j'étais frappé par la ressemblance de Scarlett Johansson avec Janet Leigh.
Oui, c'est vrai, elle jouait Janet Leigh, c'est vrai.
C'est assez frappant. Jessica Biel, très bon choix pour le
ramasser.
C'est la scène de la douche.
La douche.
La scène.
C'est efficace.
D'ailleurs, dans le film Hitchcock, on dirait quasiment qu'il est comme pogné un air en voulant.
C'est Danny Elfman qui a fait de la musique, c'est vrai. Oui. C'est Danny Elfman qui a fait de la musique de Hitchcock.
Ok.
Ah non, excusez. Ah, c'est solide. Ouais, on va te le dire, excuse-moi.
Dans le film Hitchcock, à un moment donné, il pogne un air en voulant expliquer à la doublure de Madame Bates que c'est. Faut, avec le couteau, il faut y aller comme ça. Puis,
ouais.
Je sais pas si c'est vraiment arrivé de même.
Ben, je sais pas si il vivait vraiment à ce point-là ce petit problème conjugal avec sa femme. Mais peut-être que oui, peut-être qu'il s'est impliqué peut-être un petit peu plus. Là. Surtout que c'était son argent aussi, là, tu sais.
Ouais.
Fait que s'il fallait que ça avance, il y avait des deadlines à respecter, puis les distributeurs mettaient beaucoup de poids sur lui. Là. Il sortait d'un futur classique North by Northwest qui pognait au bout. Là, maintenant, il y avait la pression.
Ouais, c'est ça. Mais je dis ça parce que une fois qu'il a passé sa crise, il a dit eh bon, on la garde. Donc, est-ce que je suis en train de me dire, est-ce que dans les plans authentiques du film, lorsqu'on voit le couteau en plan serré, est-ce que c'est vraiment lui,
t'sais? Est-ce que c'est Hitchcock ou est-ce que c'est le. Ouais.
En tout cas,
c'est
pas que ça venait
de même. C'est parce qu'on a mis le film Hitchcock aussi. Là. On le regardait vite de même. Puis ça finissait avec une ombre d'Anthony Hopkins sur le côté avec une lumière en arrière de lui. Là.
La fameuse silhouette iconique.
La fameuse silhouette, oui.
Celui qui fait Norman Bates, ressemblance encore une fois vraiment frappante.
Oui, le nom de l'acteur méchant. Là, c'est James Darcy.
Et vu que je regardais les making-of de Psycho dans la même période, je regardais Joseph Stefano.
Ouais.
Mais
Joseph Stefano qui est interprété par Ralph Macchio.
Ouais.
Dans le film.
Puis j'étais.
Macchio qui jouait à Karate Kid.
Ok, ben j'ai même pas allumé. Mais c'est surtout que j'ai fait. Comment ils ont fait? On dirait vraiment que c'est Joseph Stefano jeune.
Ah oui, c'est vrai, ok. Ah, c'est vrai, tu as vu les bonus, toi. Ok, c'est vrai, ouais, making-of.
Ouais.
Ok, je savais pas qu'il y ressemblait.
Ah oh, oui. Incroyable.
Ok.
C'est le fun parce qu'ils ont amené plein, comme tu disais, des clins d'œil. Comme par exemple, à un moment donné, Janet Leigh. Je parle
de Scarlett.
Oui. Ouais. Okay. Janet Leigh qui va reconduire Alfred chez lui. Mm. Et elle a un sac qui a dit c'est des acidulés.
Oui.
C'est des genres de bonbons.
Oui.
Et ceux qui vont le remarquer, c'est les bonbons que. Anthony Perkins mange tout le temps dans Psycho.
Ah, c'est peut-être
c'est
pour
le,
ça.
C'est le petit sac là, qui traîne avec lui tout le
C'est-tu
temps.
C'est-tu un inside ou est-ce que c'est involontairement Janet Leigh aurait inspiré Hitchcock pour le personnage de Norman Bates?
Non, parce que c'est Anthony Perkins lui-même, selon ce que Joseph Stefano disait, qui a amené cette idée-là.
Ah, OK.
De toujours grignoter des bonbons.
OK.
Ça lui donne un air.
Donc, un fan, un amateur comme toi, a remarqué dans le film Hitchcock que c'est détail-là.
Exactement.
Ok, ça, j'avais pas vu. Ça, je savais pas. Ah, c'est bon. Fait que oui, t'as aimé ça, toi, Hitchcock? Parce oui, que moi, c'est sûr que j'ai écrit une rafale à l'époque qui est sortie en DVD. Ouais, ouais. Là, c'était quoi, au début janvier, dans ce coin-là? Que j'avais beaucoup apprécié.
Mais t'avais une bémol. Sur le fait que jusqu'où on peut aller dans sa tête à Hitchcock
ouais.
Par rapport à Ed Gein.
Oui. Ouais, parce que dans le film, c'est ça. Dans le film, ils nous font interagir avec le meurtrier. Le vrai meurtrier.
Ouais, c'est ça.
Et finalement, ça n'a jamais été le cas. Là.
Non.
Et toi, ça t'a-tu dérangé?
Non. Ben.
Si je voulais. Est-ce que Hitchcock, c'est vraiment. Sur l'ordre du tournage. Parce que moi, c'est important, moi, la véracité des faits.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que Hitchcock a vraiment été, disons, troublé ouais, ouais. Par des apparitions du vrai meurtrier pendant le tournage de Psycho? Je crois pas. C'est un gars cérébral, rationnel, Hitchcock,
ouais.
Pour moi.
Mais avec tout ce qu'il vivait, c'est pas étonnant. Mais c'était peut-être plus des rêves, des cauchemars, peut-être.
Il vivait quasiment, tu sais. À un moment donné, il y a une scène où il touche le plancher, puis il se fait dire par le meurtrier, touche le plancher, vers ses salles.
Ouais,
il
ouais,
est
ouais.
Allé à la plage, là.
Ouais.
Il y a okay. Du sable, là.
C'est vrai, ouais.
Tu sais, c'est un détail. C'est un film aussi. Il faut penser que c'est un film dans un film, tu sais, ouais. Sur un personnage, sur un homme qui est devenu son personnage lui-même, tu sais, finalement. quand tu y penses. Bon, faut que là, on joue au niveau des niveaux, deux, troisième niveau. Là. mais là, Hitchcock, en soi, moi, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. C'est juste sur les petits détails. Là. Et toi, t'aimes ça?
Oui, ben c'est sûr. J'ai aimé ça, premièrement, parce que on est dans les coulisses du film Psycho.
Oui, c'est sûr.
Puis j'ai aimé, justement, apprendre aussi la manière que ça marchait dans l'industrie du cinéma et à cette époque-là, tu sais, aussi.
Oui, au début des fin des années 50, début 60.
Tu sais, les affaires, bon, ben là, tu finis bientôt avec ta Paramount, après ça, tu t'en vas avec Universal, puis, ou le contraire, je sais plus.
Non, ouais, moi, je me rappelle pas, là.
Puis la censure, puis, ben c'est sûr, on faisait un survol général sur sa façon de faire et sa carrière. Mm. Mais c'était centré sur Psycho, les coulisses. Puis entre autres, on apprenait que pour la première, il s'est dit, ouais, mais là, si Janet Leigh a disparu au début du film, puis que les gens arrivent en retard, ils sont dit, elle est où, là? Fait que là, il a obligé le monde, ben, les salles, à dire, vous arrivez à l'heure, les portes ferment, puis vous interdit de rentrer. Ouais. Puis tout ça avec un peu d'humour, parce que je me rappelle qu'il avait mis des pancartes. Puis ça disait, je pense, même si t'es le président des États-Unis, tu rentres pas. Après, la clé pour ça est fermée.
Il y avait. Il a distribué le film dans peu de salles au début aussi.
Oui.
Fait qu'il a créé une demande là, en même temps. Là.
Et ça a fonctionné.
Ouais, ça a fonctionné à plein. Là.
J'adore la scène, je sais pas si c'est vraiment passé de même. Mais Hitchcock sort de la salle, il attend la scène de la douche. Là, il fait le chef d'orchestre.
Ça, c'est une idée de. Si je me rappelle d'avoir lu, là, c'est une idée d'Hopkins. Parce okay. que Hitchcock, il a toujours. Ben, il l'a déjà dit, mais il l'a jamais fait. Il aimait jouer au chef d'orchestre avec le public, avec ses films, avec les images. Puis Hopkins, lui, en lisant ça, il l'a carrément visualisé. T'sais. Il l'a mis en image. Mais c'est pas ça qu'il faisait. Là. Hitchcock n'a jamais fait ça. Mais l'idée est bonne, l'idée est super solide, là. Fait que, non, c'est ça. Que dire de plus sur Hitchcock?
Bravo pour la reconstitution.
Oui, on parle du film?
Ouais.
Oui. Oui, c'est bien fait. C'est Sacha Gervasi, qui est un Canadien, qui a fait auparavant un petit film qui s'appelle Foubar. Un film sur genre Spinal Tap, là, un film sur un groupe de musique poche, là, que j'ai même pas vu. Puis là, il nous donne ça. C'est quand même pas n'importe quoi. Là.
Non.
C'est un beau travail.
Oui.
mais ce que j'aimais aussi de Hitchcock, c'est qu'on voit la relation avec sa femme.
Oui.
T'sais, c'est pas juste un homme. D'ailleurs, on la connaît toute, la Maxime. Là. D'ailleurs, chaque grand homme, il y a une femme qui s'y porte. Puis ça, c'était le cas, là. C'est carrément le cas ici, là.
Et personnellement, bon, j'ai pas vraiment le temps de lire, puis tout, fait que je savais pas à ce point-là.
Ouais, ou le poids qu'elle avait, elle, ouais, ouais. Moi non plus. Dans ma tête, Hitchcock qui prenait toutes les décisions. Ça a toujours été lui. Mais elle a plus de poids qu'on le pensait, là.
Ouais.
Puis il fallait avoir un certain caractère aussi, là. D'ailleurs, la madame, elle avait fait pas un infarctus, mais elle a eu. Une attaque au début des années 70 okay. qui l'a amoindri physiquement. Bon, évidemment, ça ne l'a pas empêché la relation de perdurer entre eux deux. Là. Puis à la fin, quand il a eu son Oscar honorifique, il avait dit « Je vais remercier quatre personnes, seulement quatre, laissez-moi permettez-moi de remercier quatre personnes, dont une bonne... » Ben là, je mélange, une bonne monteuse, une bonne cuisinière, une bonne mère, puis une autre affaire, puis c'est... Puis après ça, il dit le nom de sa femme, à Bonneville. That's it. Puis quand il a été... quand il a reçu un autre prix aussi, il a été réputé pour son discours, il a juste dit, merci. That's it. Ben. Donc ça n'attendait pas de parler trop tôt, là. Mais ça, je sais plus c'est pour quel prix, mais c'est à la fin de sa carrière.
Ben, ça se trouve, ça fait partie peut-être aussi son genre, sens de l'humour.
Oui, peut-être, oui.
Est-ce que vous avez déjà vu la bande-annonce de Psycho?
Ben, fait longtemps.
Ça n'a rien à voir. il nous fait visiter les décors.
Ah ouais?
Fait que là, il rentre, mettons, dans la salle de bain. Il vient pour nous raconter. C'est vraiment trop. On va ailleurs.
Ah ouais, c'est ça qui se passe?
Après ça, il arrive dans la maison. Il nous fait visiter les différentes pièces. La chambre de Mme Bates. Après ça, il vient pour arriver à notre place.
C'est ça le preview? Ça.
Ah ouais, il nous fait visiter le motel et la maison.
Il a ça chaque fait fois... penser. Je pense qu'il a fait la même chose pour The Birds, je pense. Il était assis à une table en train de manger de la volaille.
OK.
Puis il était en train de manger un poulet ou peut-être un canard. Puis... Je vais vous parler de mon prochain film. Mais c'est bien, ça. Ça se fait pas, ça. Ça se fait plus, ça, ces affaires-là. On nous présente toujours quasiment le film au complet.
Là. Ouais.
En deux minutes et demie. Là.
Ouais. Sauf peut-être J.J. Abrams que le tour d'en montrer sans montrer.
Ouais, il en montre beaucoup, puis on sait pas qui se passe pareil.
C'est ça.
Là, on fait référence à Star Trek, mais là, ouais. C'est un autre sujet.
Oui, parce que là, c'est ça. Là, je vais sortir. Là, on va sortir Hitchcock pour le 29 avril.
Oui, pour commémorer 33 ans.
Et quelques jours après, je vais sortir l'émission Blockbuster.
Oh, c'est vrai. C'est vrai.
Et environ une semaine après, là, pas tout à fait.
Mais ben, il faut penser aussi. Quoique, on va avoir une émission régulière
là-dessus.
Mais on va passer vite, vu que les Blockbusters vont. Et l'émission régulière de mois de mai, c'est pas la même chose. Là.
Parce que le but, c'est de faire l'émission sur Iron Man 3.
Yes. Iron Man 3, puis après ça va être Star Trek.
Into Darkness.
Yes. On aura un beau mois de mai. Là.
Oui.
Un mois de mai assez occupé.
Bon, faut qu'il fasse fret puis qu'il fasse pas soleil.
Bon, là, on a un mois d'avril assez en dentis, là. Mais le mois de mai, on va toucher du bois qu'il fasse chaud. Puis même s'il fait chaud, c'est pas grave, on va être dans les salles de cinéma.
Climatisé.
C'est pas grave, on a deux films au moins à voir. Au moins. Fait que c'est ça pour Hitchcock. Ben, pour Alfred Hitchcock.
Oui. En tout cas, moi, j'ai trippé à faire cette émission-là.
Oui, j'ai bien. Ben, c'est sûr que j'aurais aimé ça être un peu plus en forme. Là. Je me sens pas à mon meilleur.
Mais ça s'est amélioré. Hein.
Ouais.
Fait que là-dessus, ben, merci de votre fidélité.
Oui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis à très 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 bientôt, parce qu'on a plusieurs.
Ouais, parce que ça va être des bing bang, deux trois émissions.
Ouais, en fil.
Yes.
Alors, ben, à la voyue.
Bon cinéma.
Bye bye.
Bonsoir.